Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'Europe joue-t-elle son avenir en 2019 ? Les enjeux strictement nationaux ayant toujours été très présents lors des élections européennes, il n'y a pas de raison pour que celles de mai 2019 dérogent à la règle. Pour autant, celles-ci devraient au moins en partie échapper à cette forme de confiscation, car le contexte s'y prête. Le débat ne porte plus sur la meilleure manière de gérer le projet européen, mais sur le projet lui-même, une repolitisation de la question européenne qui augmente a priori l'intérêt pour le prochain scrutin. Le Brexit, à cet égard, aura marqué un tournant, tout comme la crise migratoire de 2015 qui, bien que considérablement amoindrie, reste un important sujet de dissension entre les pays membres. Un certain nombre d'entre eux remettent en cause l'idée d'une libre circulation des personnes au nom de la primauté des frontières nationales, remise en cause qui vaut aussi d'ailleurs pour les marchandises, le libre-échangisme sur lequel a été bâtie l'Europe est fortement contesté. Le débat porte aussi sur la question des valeurs, comme l'a montré la spectaculaire décision du Parlement européen ce mois-ci, à savoir l'activation de l'article 7 contre la Hongrie, en vertu des atteintes portées par ses dirigeants à l'état de droit. Bref, les sujets de divergence ne manquent pas, et c'est bien à un tournant que semble se situer le projet européen aujourd'hui. Alors, l'Europe joue-t-elle son avenir en 2019 ? C'est le sujet du débat qui va opposer ce soir deux invités. Ludovic Mendes, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de La République En Marche de Moselle, député de la deuxième circonscription.
Tout à fait.
Vous êtes militier autrefois avant La République En Marche au Parti Socialiste. Vous êtes aujourd'hui membre de la Commission des Affaires étrangères et des Affaires européennes et vous êtes notamment l'auteur d'un rapport sur l'espace Schengen.
Les frontières extérieures, tout à fait.
Et pour discuter avec vous, Jean Messia, bonsoir.
Bonsoir.
Membre du bureau national du Rassemblement national, délégué national études et argumentaires. Vous avez été un des coordinateurs du projet de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. Et vous êtes par ailleurs haut fonctionnaire. Alors je précise tout de suite, avant de recevoir un certain nombre de messages d'auditrices et d'auditeurs qui contesteraient le fait qu'on ait choisi La République En Marche et le Rassemblement national et pas d'autres formations politiques, il ne s'agit que d'un premier débat. Il y en aura d'autres et on trouvait ça assez pertinent de commencer par ces deux formations politiques ce soir, dans la mesure où ce sont leurs représentants, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui étaient au second tour de l'élection présidentielle et dans la mesure où les questions européennes avaient été justement très présentes dans ce débat, notamment de l'entre-deux-tours. Jean Messia, je voudrais juste commencer brièvement, si vous le voulez bien, par l'actualité du jour, pour juste mesurer son impact sur la campagne que va mener le Rassemblement national pour les européennes. La justice a décidé aujourd'hui de restituer la moitié des 2 millions d'euros qui avaient été saisis dans le cadre de l'enquête sur des emplois présumés fictifs du Rassemblement national au Parlement européen. Je ne vais pas vous demander si c'est une bonne nouvelle, j'imagine que oui, mais en tout cas, est-ce que cette saisie avait entravé pour l'instant la campagne que souhaite mener votre formation politique ?
Bah écoutez, c'est évident que ça entravait la campagne. Un parti peut pas se voir amputé d'un quart de sa dotation annuelle et affirmer en même temps que son fonctionnement est normal. C'est quelque chose d'extrêmement grave, dont le fondement juridique est plus que contestable d'ailleurs. Et on a eu aujourd'hui une espèce de jugement de marchand de tapis. C'est-à-dire que comme il n'y a aucun fondement juridique, ils étaient poussés à nous restituer l'entièreté de la somme. Mais comme la justice ne voulait pas déjuger les deux magistrats qui ont pris cette décision envers et contre tout bon sens, eh bien, ils ont coupé la poire en deux. Je trouve quand même que pour un pays comme la France, ça ne fait pas honneur à l'institution judiciaire.
Alors, sans aller sur le fond de l'affaire, Ludovic Mendes, est-ce que vous considérez en tout cas que c'est peut-être mieux que le Rassemblement national puisse se battre à armes égales dans le cadre de cette campagne européenne en se voyant restituer une partie de la somme qui a été saisie ? Ou bien est-ce que vous ne souhaitez pas évoquer cette affaire ?
Sans aller dans le détail, comme vous l'avez dit, chacun doit se battre à armes égales avec ses moyens financiers et de militants. Après, il y a une opération de justice, il y a une action qui est ouverte. Je crois que vous faites appel à la décision de ce matin. C'est à la justice de faire son travail et moi j'ai toute confiance en la justice, elle qui rendra le meilleur des jugements.
Alors j'ai vu que Marine Le Pen, au contraire, elle a accepté cette décision a priori. Bon, c'était dans le...
Elle n'a pas le choix de toute façon, mais on va se voir en cassation.
D'accord. Alors, fin de cette parenthèse liée à l'actualité, passons donc au fond de la campagne des prochaines européennes. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment résumer la confrontation qui va avoir lieu. Est-ce que ça sera entre pro et anti-européens ? Est-ce que ça sera souverainiste face à des... Alors, on voit la dénomination, par exemple, d'européistes. Comment est-ce que l'un et l'autre, vous définiriez l'alternative qui est proposée aux électeurs ? Ils vont avoir le choix entre quoi et quoi, Ludovic Mendes ?
ça ne sera pas entre quoi et quoi. On le voit aujourd'hui au niveau du Parlement européen. Du moins, on l'a vu la semaine dernière avec la décision de prendre des sanctions contre la Hongrie. Ça a été compliqué. C'est-à-dire que même dans les partis traditionnels, tout le monde n'est pas d'accord. Donc il y a dans ces partis une ligne conservatrice, une ligne progressiste, alors sans être dans un côté péjoratif du terme progressiste, mais de faire avancer l'Europe, de continuer à la faire avancer, de la faire bouger, en acceptant de dire qu'elle ne fonctionne pas correctement, mais qu'on en a besoin et qu'on doit la faire changer. Donc je pense qu'on sera sur une ligne conservatrice, nationaliste, contre-progressistes et européistes, mais pas européistes de BA, européistes qui veulent la faire bouger. Il y a des vrais débats aujourd'hui. On peut parler d'immigration, on parlera d'économie, on parle d'Europe de la défense, on parle de beaucoup de sujets. Il faut faire bouger l'Europe parce que l'Europe aujourd'hui est dans une crise politique qui est très dangereuse pour sa survie.
Une ligne conservatrice face à une ligne progressiste, est-ce que ça pourrait être une façon pour vous de résumer l'alternative qui va être proposée aux électeurs pour les prochaines européennes, Jean Messia ?
L'alternative pour nous, elle est très simple. Soit on poursuit effectivement le rêve de Jean Monnet, c'est-à-dire aller vers un fédéralisme européen qui consiste en fait à éradiquer ou à effacer les nations. Ça, c'est le projet que porte M. Macron. On l'a vu d'ailleurs avec le discours de la Sorbonne, qui veut aller le plus loin possible dans la fédéralisation des pouvoirs, donc la disparition pure et simple des nations. Et un autre projet, plus proche de celui imaginé par le général de Gaulle, c'est-à-dire une Europe des coopérations, une Europe qui se fonde sur les nations, qui revient finalement à des choses connues, identifiées par les citoyens. Les nations, je le rappelle, sont quand même le cœur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne non plus parce qu'il n'y a pas de peuple européen. La démocratie, son cœur, ce sont les nations, et on ne fait pas d'Europe sans les nations. Effacer les nations, eh bien, ça tue l'Europe, ça tue l'idée européenne, et donc l'Europe des nations, pour nous, est la seule Europe possible. J'ajoute que il s'est agi au départ de fusionner les nations dans, je dirais, la Fédération européenne, et cette Fédération européenne, il s'agit également de la fusionner dans l'économie mondiale. Donc c'est une double disparition. Ça, c'est le projet que mène La République En Marche. Nous proposons de revenir à la nation pour construire l'Europe sur les nations et ensuite, partant, construire également le monde sur l'Europe des nations.
Vous dites que la souveraineté européenne ne peut pas exister. Est-ce que le souverainisme européen, c'est quelque chose qui pourrait qualifier ce que va être le programme? Parce que les programmes des différentes formations politiques sont encore en voie d'élaboration, mais c'est ce qui pourrait qualifier le programme de La République En Marche et la position du président de la République.
On va déjà avoir des avancées aujourd'hui, puisqu'à 19h30, La République En Marche rend son rapport sur la Grande Marche qui a été menée au mois de mai et juin. Il faudrait juste rappeler quelque chose. Il n'existe pas, entre guillemets, de souverainisme européen. On est bien dans une Europe des nations. Les traités européens basent sur l'Europe propose et les États mettent en place. Il n'y a d'aucune façon, l'Europe peut imposer à des États, à part par le règlement.
Le droit.
Par le règlement.
Et la monnaie.
Les règlements.
Et les
règlements. Et n'oublions pas une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement européen, c'est nous, parce que nous élisons les parlementaires qui sont issus des différents pays de l'Union européenne. La Commission européenne, ce sont des représentants nommés par les gouvernements qui sont élus à nouveau par les peuples. Et au niveau du Conseil.
Les commissaires ne sont pas élus, monsieur.
Les commissaires sont choisis par les gouvernements qui, eux, sont élus. Donc, à partir de là, c'est bien une représentation qui vient des citoyens et qui est choisie en fonction des gouvernements en place. Je peux comprendre que ça ne vous correspond pas, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas aux responsabilités. Nous, quand nous faisons le choix d'une politique et d'une campagne que nous avons menée. Mais on est bien sur une Europe aujourd'hui des nations. On n'a jamais parlé d'Europe fédérale, parce qu'il faudrait changer les traités.
Mais juste qu'on comprenne bien, Ludovic Mendès, c'est-à-dire, est-ce que si ce souverainisme européen n'existe pas aujourd'hui, est-ce que c'est un objectif pour vous à La République En Marche ?
L'objectif, c'est d'avoir plus d'Europe. Plus d'Europe pour accompagner, par exemple,
plus d'intégration européenne.
Donc plus de fédéralisme.
Pas obligatoirement du fédéralisme. Plus d'intégration européenne, ça veut dire que l'Europe a, entre guillemets, plus de pouvoir, mais les nations ont le dernier mot. On prend un exemple. La semaine dernière, le président de la République parlait bien de pays volontaires et obligatoires. Les pays volontaires, c'est quoi? C'est de dire, voilà, nous, dans l'Europe, nous faisons le choix d'aller vers plus d'Europe, comme le bureau de l'asile européen. Le bureau de l'asile européen va accompagner les pays, mais c'est bien, par exemple, en France, l'OFPRA qui mettra le dernier tampon. Donc c'est bien l'État qui est décisionnaire. Ce n'est pas l'Europe qui prend la décision à notre place.
Pour quelle raison, Jean Messia, êtes-vous aussi hostile à un projet qui plaide pour davantage d'intégration européenne?
Tout simplement parce que l'intégration européenne, c'est un navire qui comment dirais-je, qui s'éloigne du rivage de la démocratie sans cesse. Monsieur Mendès parlait tout à l'heure de le contrôle qu'auraient les gouvernements ou les peuples sur l'Europe. Ce n'est plus du tout vrai. Le véritable exécutif de l'Union européenne, c'est la Commission. Or, la Commission n'est pas un organe élu. La deuxième chose, c'est qu'il y a la notion d'acquis communautaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la notion d'acquis communautaire, c'est-à-dire que l'Europe procède par effet de cliquet. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une avancée, tout retour en arrière est impossible. Or, ce principe d'acquis communautaire percute frontalement un principe démocratique de base qui est ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Lorsque vous avez 80% de notre droit national qui est du droit dérivé, que les députés nationaux jouent juste le rôle d'une caisse enregistreuse pour pouvoir le traduire dans le droit national, les parlements nationaux sont court-circuités. Donc, nous avons un problème avec l'Europe actuelle parce que la dérive fédérale est par essence une dérive antidémocratique. C'est d'ailleurs le logiciel initial de Jean Monnet que le général de Gaulle avait réussi un temps à arrêter, mais qui, depuis sa disparition, repart de plus belle.
Donc je comprends que vous considérez qu'on est allé trop loin dans l'intégration européenne, d'autant plus loin qu'on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous pouvez partager une partie de cette analyse, Ludovic Mendès, c'est-à-dire le fait qu'on a peut-être trop intégré à un moment donné, on est allé trop loin et qu'il faudrait peut-être redonner de la souveraineté à certains États?
Les États ont de la souveraineté, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas été trop loin, parce que nous, on demande encore plus d'Europe. Alors, sur certains sujets, pas sur toutes les thématiques. On parlait de l'Europe de la défense, on parle de problématiques avec les flux migratoires, d'une politique de protection des frontières extérieures. Il est normal de mutualiser des moyens, parce que d'une part, ça fait plus de disponibilité, ça fait des compétences qui sont mutualisées. Et aujourd'hui, on sait que la France est très bonne dans certains domaines, l'Allemagne dans d'autres, l'Espagne dans d'autres. Quand on mutualise ces moyens, on est plus fort que tout le reste du monde. Donc, à partir de là, c'est de faire de l'Europe une véritable puissance, tout en conservant notre souveraineté nationale. Aujourd'hui, il n'y a dans aucun système qui est mis en place par l'Europe quelque chose qui est imposé par l'Europe. Quand nous faisons le choix, nous, de retranscrire une partie des lois européennes dans la loi française, nous faisons le choix aussi de l'amender, de la modifier. Pour preuve, c'est qu'on va souvent beaucoup plus loin que les lois européennes. C'est ce qui nous est parfois reproché aussi de notre côté. Mais c'est bien la souveraineté nationale qui prend le relais et ce n'est pas l'Europe.
Est-ce que la meilleure preuve, ça n'est pas, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui sur la question migratoire?
Justement, j'allais y venir.
C'est-à-dire, est-ce que les États ne font pas la démonstration aujourd'hui au sein de l'Union européenne? Alors, on peut s'en féliciter ou on peut le déplorer, mais que cette question est avant tout une question de souveraineté nationale, sans quoi il y aurait peut-être des décisions qui seraient prises de manière beaucoup plus collective.
Alors, il y a deux choses en fait. Il y a effectivement le carcan représenté par l'Europe et par la structure de l'Union européenne sur un certain nombre d'obligations. Par exemple, la CEDH qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on pourra en parler tout à l'heure.
La Cour des droits de l'homme.
Voilà. Sur la question migratoire, typiquement, il y a deux choses. Il y a évidemment Schengen, d'accord. Il y a la libre circulation, le principe de libre circulation.
Mais à l'intérieur des frontières.
À l'intérieur des frontières. Mais il y a aussi
pays, parce qu'ils
le fait
pas tous
politique. Attendez, nous n'envisageons pas de, passez-moi l'expression, pétarder l'ensemble de l'édifice. Nous voulons juste corriger les dérives fédérales. Et ça, il y a le fait politique. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, en réalité, dont la France est aujourd'hui victime, qu'on attribue à l'Europe, mais qui, en réalité, doivent être attribuées à l'impéritie des gouvernements et à leur politique d'abandon. Vous voyez par exemple des pays comme la Hongrie, comme l'Italie obtiennent énormément de choses en restant à l'intérieur de l'Union européenne et ne se voient rien imposer sans qu'il y ait de conséquences sur la question migratoire.
Pardonnez-moi juste, vous dites vous voulez pas pétarder. S'agissant en tout cas de l'espace Schengen, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas pour la campagne des prochaines européennes, mais Marine Le Pen, candidate à la présidentielle en 2017, dans son programme, il était prévu de sortir de l'espace Schengen. Est-ce alors, que ça c'est toujours en projet?
Il faut bien comprendre, si vous voulez, que globalement, notre projet européen, parce que nous sommes des pragmatiques, on n'est pas des idéologues. L'Europe de 2017, c'était une Europe qui avait des majorités qui, peu ou prou, ressemblaient à la majorité macroniste actuelle. Or, il s'est quand même passé des choses depuis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coloration politique de l'Europe n'est plus la même qu'en 2017. Quand vous rajoutez l'Italie, les pays de Visegrad, l'Autriche, plus les minorités en Allemagne, par exemple, la montée en puissance de l'AFD ou en Suède, vous voyez bien qu'on est dans une phase de changement de paradigme vers un nouveau paradigme européen autour de la frontière, autour du volontarisme politique, autour des identités. Et donc, notre projet qui doit normalement répondre à une réalité, si la réalité change, évidemment, notre projet change. Nous voulions quitter l'Europe.
pragmatisme, c'est de l'opportunisme. C'est-à-dire, à partir du moment où les majorités vous sont plus favorables, vous reconsidérez votre positionnement sur les frontières de Schengen.
Il n'est de politique que de circonstances. On peut pas, le projet, il est un projet politique, c'est pas quelque chose qui est suspendu en l'air comme ça, sans aucun rapport avec ce qu'elle est censée traiter.
Donc, en tout cas, pour l'instant, on ne sort plus. Enfin, on ne sort plus. Pour le Rassemblement National, la question de la sortie de Schengen.
Alors, la libre circulation des Européens sera maintenue, pour peu qu'effectivement on corrige, par exemple, les effets de la directive détachement travailleurs, qui évidemment pénalise beaucoup nos.
Ce qui a été fait avec le président
Macron. Pas suffisamment. C'est encore beaucoup de choses à faire. Allez demander aux camionneurs. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire.
Ce n'est pas la directive détachée.
Si, ça joue aussi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, la libre circulation des étrangers, des extra-communautaires, nous allons l'interdire, c'est sûr.
Alors, je mentionnais au début de l'émission, Ludovic Mendès, que vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'espace Schengen et la maîtrise des frontières extérieures de l'Union européenne en tant que député donc à l'Assemblée nationale. Sur l'espace Schengen, La République en marche, l'idée c'est quoi ? C'est on maintient tel que cet espace existe aujourd'hui, c'est-à-dire avec 22 des, pour l'instant, 28 pays de l'Union européenne, plus 4 pays, je crois que c'est 4 hein, pays qui sont associés à cet espace.
Il y en a un peu
espace.
Plus, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne.
Voilà. Est-ce qu'il faut maintenir l'espace comme il est ? Est-ce qu'il faut revenir peut-être sur cet espace ? Est-ce qu'il faut le renforcer, l'élargir ?
Il faut le maintenir. Il faut le maintenir, mais il faut surtout le renforcer. Le renforcer, c'est donner des prérogatives, ou du moins améliorer le mandat de l'agence Frontex, qui est le garde-côte et garde-frontière européen, avec au moins 10 000 hommes, c'est ce qui est prévu pour 2020, et augmenter le budget afin qu'elle puisse avoir un rôle d'action sur le territoire. Aujourd'hui, elle était sur le conseil, elle était sur le suivi, l'accompagnement, mais elle n'avait pas de rôle d'action. Là, le but, c'est vraiment d'avoir des gardes-frontières qui ont une action sur la protection autour de l'espace Schengen. À l'intérieur, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut modifier, remettre des barrières à nos frontières. Premièrement, parce qu'en France, on a au moins 500 000 travailleurs qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler de l'autre côté dans un autre pays. C'est des problématiques aujourd'hui, moi je le vois au quotidien en Moselle, hein, 86 000 des travailleurs qui vont au Luxembourg, c'est des problématiques de transport, de mobilité, d'écologie, de fatigue, donc il y a un vrai impact. Et si on rajoute en plus des contrôles, je vous assure que c'est encore plus compliqué.
Renforcer, donc, ça veut dire aussi élargir, c'est-à-dire que l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre et la Croatie rejoignent cet espace Schengen.
Il y a des débats actuellement, on sait que pour certains pays c'est des problématiques internes qui sont à résoudre, hein, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Certains veulent rejoindre, d'autres ne veulent pas le rejoindre. L'Irlande n'a peut-être pas l'intérêt de son côté de devoir rejoindre l'espace Schengen, mais elle est affiliée, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de besoin de visa particulier pour quitter et venir sur le territoire de l'Union européenne, du moins de Schengen. De l'autre côté, il y a des débats aussi sur les Balkans occidentaux. Donc après, comment on fait pour accompagner ces pays-là, pour intégrer ou pas l'Union européenne, et intégrer ou non l'espace Schengen dès l'intégration. Il y a des réalités, il y a des problématiques, on le sait, avec une partie de la Roumanie. C'est en train d'être réglé tout doucement. Donc il faut renforcer, maintenir et préparer la suite.
Schengen, ça pose la question des frontières intérieures, essentiellement, hein, de l'Union européenne, même si ce n'est pas exclusivement. Sur la question des frontières extérieures et sur la question migratoire, est-ce que... Alors, la question s'adresse aussi bien à l'un qu'à l'autre, hein, Ludovic Mendès et Jean Messia, mais pour La République en marche, est-ce que l'idée, c'est de pousser aussi l'intégration européenne sur cette question migratoire, c'est-à-dire d'avoir une vraie politique européenne, quitte à en dessaisir d'une partie les États?
Il y a déjà une politique européenne qui est appliquée au cas par cas dans chaque État. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Le fameux paquet asile qui est en discussion, donc il y a 5 textes qui ont été validés actuellement au niveau de la Commission, du Conseil et du Parlement, donc en trilogue. Il y en a 2 qui sont bloqués aujourd'hui. C'est le règlement Dublin qui pose problème, parce que Dublin aujourd'hui impose à l'État, en fait, d'arriver, le premier arrivé, de gérer la demande d'asile et de ne pas pouvoir laisser la personne quitter le territoire. Ce qui pose d'ailleurs problème en Italie. Et derrière, c'est ce qu'on appelle la procédure. La procédure, c'est tout l'accompagnement avec l'Agence européenne de l'asile, c'est comment, quelles règles on applique, est-ce qu'on a une règle homogène sur tout le territoire européen, est-ce qu'on dit, voilà, c'est nous qui faisons la liste des pays dits sûrs pour des personnes qui sont en mesure accélérée ou non, et comment on fait pour accélérer la procédure. Aujourd'hui, on s'est battu au niveau de l'Assemblée nationale pour réduire à 6 mois la procédure. Dans certains pays comme l'Italie, on est au-delà de 2 ans. C'est normal qu'il y ait des problématiques, qu'on ne peut pas y répondre. Et là, c'est l'Europe qui va pouvoir les aider en changeant Dublin et autres. Mais je voudrais juste, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que la Hongrie et l'Italie avaient obtenu certaines choses, il ne faut pas oublier que l'Italie en est là aujourd'hui, en partie à cause de la Hongrie, qui, elle, a bloqué pendant des années l'avancée, en fait, du paquet asile.
Jean Messia.
On a ici, avec ce qui vient d'être dit, la démonstration de ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire une Union européenne technocratique qui s'excite sur des textes, qui s'excite sur une idéologie, qui s'excite sur des impératifs, mais qui ne voit jamais la réalité de ce qui arrive. Aujourd'hui, l'Europe, et on le voit encore avec l'Aquarius, l'Europe depuis plusieurs années déjà est confrontée à une vague migratoire sans précédent. L'Europe,
vous pouvez donner des chiffres, nous parler de vagues, donnez-moi des chiffres. Ouais. Quoi.
Mais non, mais
de vagues,
donnez-moi des chiffres. Oui, d'accord, mais enfin, si vous voulez, nous avons déjà des problèmes d'immigration colossaux, d'immigration antérieure qui n'ont pas été résolus, des problèmes d'intégration, des problèmes de pauvreté. Quand vous avez 20% des étrangers, enfin des étrangers en situation légale, qui sont au chômage en France, deux fois la moyenne nationale, et que ça continue, enfin le flux continue à arriver, même si c'est un flux qui est je dirais insignifiant ou en tout cas faible, mais ça rajoute à des problèmes déjà existants.
C'est justement un problème de politique nationale qu'on essaie de résoudre à l'Assemblée nationale. C'est une réalité, il faut savoir regarder les choses en face.
L'Union européenne n'a absolument rien réglé, ni sur le plan migratoire, ni sur le plan commercial. Aujourd'hui, le problème de l'identité ressort parce que les peuples en ont assez d'une submersion migratoire que personne n'arrive à contrôler, et surtout pas l'Europe. Les peuples se réveillent aussi parce que sur le plan commercial, nous sommes envahis par des produits qui pratiquent une concurrence déloyale parce que l'Europe a interdit le tarif extérieur commun qui, jusqu'à la fin des années 80, nous protégeait. Ça a été levé. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus une puissance. C'est un accélérateur de la mondialisation et de tous ses effets négatifs. Il faut, à un moment, si vous voulez, les textes, Dublin, etc., c'est très bien, mais le citoyen, lui, la réalité qu'il voit, c'est que l'Europe ne le protège de rien, ni sur le plan migratoire, ni sur le plan commercial.
Vous parlez du citoyen, c'est ça qui est intéressant. Quand on parle de produits qui viennent de partout dans le monde, aujourd'hui, c'est aussi le citoyen qui est acteur, qui est consommateur. C'est lui qui fait le choix de peut-être mal consommer ou de trop consommer.
Vous n'allez quand même pas charger le citoyen de...
Je ne charge pas citoyen, suis moi-même citoyen.
Non, justement, le citoyen, non, mais parce que vous avez parlé beaucoup tout à l'heure.
On parle de responsabilité. La responsabilité collective, elle n'est pas que politique.
À l'intérieur de l'Union européenne, vous avez la France, juste pour prendre un exemple, la France paye 9 milliards d'euros de contributions nettes à l'Union européenne. Nous avons, avec les pays, nos partenaires, 42 milliards de déficit commercial. C'est-à-dire que nous finançons par le biais de l'Union européenne notre propre concurrence déloyale de pays partenaires.
Il ne faut pas tout mélanger.
Mais
c'est ça qui arrive.
Parlez pas tous les deux en même temps.
Aujourd'hui, l'Union européenne, et ça fait des années que ça dure parce que le logiciel initial de l'Union européenne a muté vers quelque chose qui met le citoyen directement en contact du reste du monde. L'écluse nationale a sauté et l'écluse européenne, elle aussi, a sauté.
Alors, ce que je trouve dommage, c'est toujours de dire que c'est la faute de l'Europe. C'est compliqué, ce discours aujourd'hui.
Vous avez raison, on ne peut pas
l'entendre, parce que majoritairement, c'est aussi des erreurs nationales. Quand on parle des travailleurs détachés, quand on nous explique qu'on nous envoie des Roumains, des Polonais, des Tchèques pour travailler sur nos territoires... On va les chercher en entreprise parce que aussi on n'a pas su pendant des années former les personnes sur notre territoire national. Donc il y a une faute du politique national sur cette partie de formation. Aujourd'hui on a formé très peu.
Du tout, monsieur, la concurrence se fait sur les coûts,
les chiffres le montrent et les mœurs c'est le cas. On a eu un débat nous sur
le bâtiment.
Laissez-moi parler.
Parce que
c'est une réalité. Aujourd'hui par exemple dans le bâtiment on ne forme pas assez de personnes et on met des personnes par défaut, pas des personnes qui ont envie de travailler dans ce genre de corps de métier. C'est une réalité. Pourtant aujourd'hui les personnes dans le bâtiment gagnent mieux leur vie aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et c'est une faute du national, c'est pas la faute de l'Europe. L'Europe permet juste de combler certaines lacunes. Mais nous, politiques, nous faisons en sorte qu'au niveau national, nous puissions changer les choses pour préparer l'avenir.
Et donc, quand vous allez mettre en contact des travailleurs français avec des travailleurs européens qui sont moins bien payés, vous allez encourager la formation.
Ils sont pas moins bien payés parce qu'aujourd'hui, travail égal, salaire égal. Ça a été modifié par la loi et nous sommes battus, nous, Français, sur le sujet.
Allez sur le terrain et on en parle.
Je vais plus que vous ne le croyez.
Ne perdez pas trop de temps, alors, justement, avec ce genre de propos, parce que je trouve que ça porte pas forcément grand chose sur le débat de fond, être sur le terrain ou pas.
Il faut corroborer, M. Gardette, les idées doivent être corroborées avec la réalité.
En tout cas, sur la question de la protection, peut-être, de la protection des citoyens et la protection des consommateurs. Est-ce que vous considérez, Ludovic Mendès, que l'Union européenne, justement, a bien fait son travail par rapport à la mondialisation, ou bien est-ce que l'Europe a pas... Alors l'Europe, évidemment, c'est un terme générique, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça recouvre à chaque fois, mais est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une forme de naïveté à se lancer dans des politiques de concurrence, de libre-échangisme, de manière peut-être beaucoup plus forte que nos principaux concurrents économiques, je pense par exemple aux États-Unis. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, d'envisager ce que certains appellent un protectionnisme européen? Qu'est-ce que vous pensez de cette notion-là?
Alors, L'Union européenne a pris des décisions fortes, sanctionne aujourd'hui les États-Unis, sanctionne en partie à sanctionner la Chine. Le protectionnisme européen existe déjà via ces accords commerciaux. Alors, on est toujours en train de montrer l'inverse, c'est-à-dire que c'est ce qui part d'un pays pour arriver sur le territoire européen. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans ces accords commerciaux, nous exportons beaucoup. Et par exemple, avec le Canada, c'est le cas sur les produits laitiers, c'est le cas dans l'industrie, c'est le cas dans la chimie. On exporte le savoir-faire européen dans ces accords commerciaux et ça nous protège. Ça nous protège parce qu'on met des bases. On met des bases sur le taux maximum d'importation et d'exportation. On nous protège sur les tarifs, on nous protège sur les fonctionnements. Ce sont bien les Européens qui fixent les bases de discussion, par exemple, sur la qualité des produits et non pas intégrer n'importe quoi sur le territoire européen. Et la preuve, c'est que les Américains ont refusé de continuer à discuter sur le TAFTA parce que pour eux, ils n'y trouvaient pas leur compte.
Je reviens tout de suite vers vous, Jean Messia, mais juste sur les accords de libre-échange alors avec le Canada. C'est le CETA qui est un accord qui est en vigueur depuis un an, mais qui n'a toujours pas été validé, ratifié par le Parlement français, par d'autres parlements d'ailleurs. Est-ce que vous souhaitez, Ludovic Mendès, député de la République En Marche, que cette question-là arrive à l'agenda de l'Assemblée nationale dans les prochains mois, voire avant les élections européennes, ou bien est-ce que vous préférez attendre?
Il y arrivera rapidement, je crois que ça devait être début d'année 2019. De notre côté, quand nous avons pris nos fonctions au sein de l'Assemblée nationale, nous avons tout de suite, entre guillemets, contacté l'Élysée et Matignon, donc au niveau du Premier ministre, pour leur dire, voilà, on a besoin d'un état des lieux du CETA, de savoir ce qu'il y a dedans, de savoir comment on peut se protéger et si ça respecte toutes les normes que nous mettons au niveau européen, au niveau national. Donc on a une feuille de route qui a été établie. Tous les mois, on reçoit un rapport sur ce que nous avons demandé sur la protection, entre guillemets, sociale, sociétale et environnementale. Et le Canada, de son côté, fait des avancées aussi pour mieux accueillir les entreprises européennes. Sachez une chose, par exemple, sur le CETA, ça je voudrais juste le rappeler, les entreprises américaines ne peuvent répondre qu'aux aux appels d'offres qui sont nationaux. De notre côté, nous pouvons répondre à tout appel d'offres, même s'ils sont au niveau des États internes au Canada et des communes, chose que les Américains eux-mêmes ne peuvent pas faire.
Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national, le CETA, ça va être un des objets de la campagne du Rassemblement national. Est-ce que l'idée, c'est
si vous voulez, la question du CETA était dans sa genèse assez gênante, dans la mesure où le secret dans lequel ce traité a été négocié par la Commission sans que les pouvoirs nationaux élus démocratiquement puissent regarder les termes de cet accord et nous le voir imposer en fin de processus pour avoir juste à voter dessus, déjà rien que ça, c'est quelque chose qui devrait interroger normalement les spécialistes de la question européenne.
On l'a fait parce qu'on a demandé à l'Union européenne ce qu'on appelle des accords nouvelle génération et le président Macron s'est battu sur le sujet.
Oui, donc les accords nouvelle génération, c'est des accords antidémocratiques.
On laisse penser Jean Messia.
La deuxième chose sur l'aspect global du protectionnisme. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est-à-dire au tournant des années 80, l'Europe est rentrée dans l'idéologie libre-échangiste et sans frontiériste. Et donc, en réalité, nous avons été quasiment la seule région au monde à ouvrir totalement nos frontières à la concurrence de manière progressive et notamment à la concurrence de pays à bas coût. Tel n'a pas été le cas des pays à bas coût, évidemment. La Chine, par exemple, pratique un nationalisme économique depuis très longtemps. L'Inde, pour la même chose. Et donc aujourd'hui, quand j'entends par exemple des critiques sur Donald Trump qui dit « il lance la guerre commerciale », il ne lance pas la guerre commerciale. Il refuse simplement que son pays soit ou reste le dindon de la farce du libre-échangisme mondial. L'Europe, et notamment la France, le libre-échangisme nous a fortement désindustrialisés. On a perdu des millions d'emplois, des secteurs entiers d'activité ont disparu. Le secteur du meuble, le secteur de l'électroménager. On a vu la plupart des usines qui ferment dans le Nord. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, tenir un discours hors sol, encore une fois, sans jamais regarder la réalité de ce qui se passe sur le terrain.
Mais est-ce que, Jean Messia, ce que fait Donald Trump à l'échelle des États-Unis, les Européens peuvent le faire à l'échelle de l'Union européenne? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un protectionnisme européen, ou bien est-ce que vous considérez que la politique économique et commerciale est du ressort avant tout de la souveraineté des États?
Moi, j'ai toujours, enfin, en tout cas, le Rassemblement national a toujours milité Le débat, si vous voulez, n'est pas entre libre-échange et protectionnisme. On peut pratiquer le libre-échange, et il est évidemment extrêmement galvanisant pour les industries et les entreprises nationales, dès lors qu'il est conduit avec des pays qui ont à peu près les mêmes environnements fiscaux, environnementaux et sociaux. Donc le libre-échange, selon la philosophie du marché commun initial...
Mais ça, ça peut être un projet d'intégration, justement, ça peut, d'harmoniser la fiscalité.
Mais ça, je veux dire, l'Europe des années, le marché commun, il faut bien entendu le garder. Maintenant, si l'Europe s'avère incapable de protéger ce marché commun, c'est-à-dire ce libre-échangisme intra-européen, si l'Europe s'avère incapable de le protéger vis-à-vis du reste du monde, il faut évidemment que les nations reprennent les rênes pour éviter une poursuite de la désindustrialisation et une poursuite de la montée du chômage. Donc le débat, il est libre-échangisme à l'intérieur des pays européens, mais à la condition que les frontières extérieures de l'Europe soient protégées commercialement. Or, tel n'est pas le cas, parce que l'idéologie qui gouverne l'Union européenne aujourd'hui est une idéologie anti-protectionniste, une idéologie libre-échangiste qui refuse toute forme de barrière et toute forme d'écluse, qu'elle soit migratoire ou commerciale.
Libre-échangisme à l'intérieur des frontières de l'Europe, à condition que les frontières extérieures soient protégées, notamment au niveau commercial, voilà qui ne me paraît pas totalement contradictoire avec le projet que vous pouvez porter à La République en marche, Ludovic Mendès.
On ne dit pas que c'est contradictoire. On n'a juste pas peut-être la même façon de l'appliquer. On oublie aussi que la France, avant que cette partie commerciale soit intégrée au niveau de l'Union européenne, avait 90 accords de libre-échange dans le reste du monde. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours fonctionné comme ça. Derrière, l'Union européenne, c'est une puissance qui est plus importante. Vous parliez des États-Unis, c'est là quand même la première puissance économique du monde. La décision de Donald Trump, qui quand même a bâti sa fortune sur la mondialisation, avec ses golfs partout dans le monde et ses entreprises un peu partout dans le monde.
Donc c'est principalement américain. Hein,
non, pas que américain, c'est ça qui est assez étonnant pour quelqu'un qui se sert de la mondialisation de voir bloquer. On peut comprendre que c'est un engagement de campagne qui est très populaire, voire même très populiste, parce qu'on répond à une fonction. Là où le politique a une règle, a oublié de se mettre une règle en place, c'est qu'on savait que certains métiers allaient disparaître. Pas que sur le territoire européen ou national, certains métiers disparaîtront quoi qu'il arrive, parce
fait,
que certaines choses changent.
Mais la sidérurgie, par exemple, aux États-Unis, elle est toujours là, chez nous, elle a disparu.
À partir de là, il fallait que les politiques puissent prévoir cette perte de métier avec de nouvelles formations, de nouveaux emplois. Vous parlez aujourd'hui de la sidérurgie aux États-Unis. Quand on voit aussi comment la sidérurgie aux États-Unis évolue, la qualité de la prestation, la manière dont les salariés peuvent être traités et le salaire qu'ils sont payés, je pense qu'aujourd'hui en France, vous ne l'accepteriez pas non plus.
Certes, mais enfin, les États-Unis obtiennent des résultats économiques très forts, notamment en matière de réindustrialisation, grâce à leur politique protectionniste. Je vais même rajouter quelque chose, c'est que Donald Trump, grâce à son protectionnisme qu'il a mis en place, obtient également des avancées sociales très fortes, puisqu'il accepte désormais, il remplace l'ALENA par un accord bilatéral avec le Mexique et il dit nous allons importer 40% de produits mexicains à condition que ces produits mexicains soient fabriqués par des salariés qui ont un salaire minimum qui est de 3 fois plus important que le salaire minimum actuel. Donc vous voyez,
rassurez-vous, on fait la même chose en Europe et la preuve c'est que par exemple le Canada a signé des conventions de l'OIT. On est en train de discuter sur des salaires minimums au niveau européen et aujourd'hui on ne peut pas demander à ce que tout le monde soit au même niveau que la France. Il n'est pas normal de dire à d'autres pays de fonctionner comme nous quand nous-mêmes nous sommes pas capables de gérer notre problème. Vous nous parlez d'être sur le terrain, et là, c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'on a un problème en France, c'est que quand on parle de politique européenne, on tape souvent sur les autres. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait actuellement, sauf qu'on connaît très mal les autres pays. Et c'est là où c'est intéressant, par contre, c'est d'aller se déplacer et de comprendre comment fonctionnent aussi les autres Européens.
Moi, j'y ai vécu, donc quand je me déplace
de mon côté dans les différents pays, que je vais rencontrer d'autres députés, qu'on échange sur le territoire, je peux vous assurer que les demandes ne sont pas les mêmes que celles que du débat que nous pouvons avoir aujourd'hui.
Tout à fait, alors, moi j'y ai vécu dans ces pays-là, donc moi je n'ai pas rencontré des députés, j'ai rencontré les gens.
Pas de problème, je me déplace aussi.
Il y a un outil qui favorise justement les déplacements au sein de l'Union européenne. Dans certains, en tout cas, ceux qui font partie de la zone euro, c'est la monnaie commune. Jean Messia, sur l'euro, la monnaie unique, l'euro, quelle est la position aujourd'hui du Rassemblement national ? Est-ce que l'idée, c'est toujours de sortir de la zone euro, de revenir au franc ? Ou bien est-ce qu'on n'en est plus là aujourd'hui, peut-être aussi parce que la configuration politique, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, n'est plus la même.
La donne a changé. On voit bien d'ailleurs le discours de Matteo Salvini et de la majorité actuellement au pouvoir en Italie. Il y a effectivement aujourd'hui une demande de nation, une demande d'identité. La demande d'identité passe aussi par la monnaie. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas, si vous voulez, de sortir de manière intempestive. Mais Marine Le Pen l'a précisé à plusieurs reprises. Vous savez, au 1er janvier 1993, c'était l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. L'entrée en vigueur de l'euro, c'était le 1er janvier 1999, de l'euro bancaire et monétaire. Il s'est déroulé 6 ans. Pendant ces 6 années, il y avait un calendrier précis avec des étapes, avec des clauses, etc. Donc, ce qui a été
donc
possible,
c'est toujours un objectif.
Ce qui était possible dans ce sens, moyennant un calendrier et une coopération entre des États qui sont d'accord sur l'objectif monétaire, c'est-à-dire en l'espèce le changement vers une monnaie unique, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible dans l'autre sens, c'est-à-dire une fois que la coloration politique de l'Europe aura changé, qu'on nous aurons des majorités qui sont proches de nos idées dans tous les pays partenaires, eh bien de s'asseoir autour d'une table. On ne peut pas se contenter aujourd'hui, on voit bien que l'euro fait quand même grandement mal à notre économie. C'est une monnaie trop forte, c'est une monnaie qui a participé à notre désindustrialisation, donc on ne peut pas s'en contenter. Donc effectivement, nous allons nous asseoir à la table des négociations avec nos partenaires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un pays, l'Allemagne, tire profit complet de la monnaie européenne qui a été taillée sur le Deutsche Mark, pendant que les autres souffrent et se désindustrialisent, sacrifiés sur l'autel de la beauté du geste, si vous voulez.
Donc pas de sortie tempestive et solitaire de l'euro. Ludovic Mendès, sur la question de l'euro, de la zone euro, et justement de l'intégration, d'une plus forte intégration. Emmanuel Macron a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre en place un budget de la zone euro avec un ministre qui lui serait dédié. Et avec un contrôle du Parlement européen, d'ailleurs, ça reste toujours aujourd'hui un des grands objectifs pour le projet européen.
De notre côté, c'est un objectif. Il ne faut pas revenir là-dessus, parce qu'on a de plus en plus de choses qui passent par l'Europe. On parlait de l'Europe de la défense, on a parlé des flux migratoires. C'est aussi le développement au fur et à mesure de l'industrialisation de l'Europe.
De l'industrialisation ?
Oui,
parce que vous êtes le seul à le voir. Hein.
Non, l'Italie, par exemple, n'a perdu presque aucune industrie et crée de nouvelles industries séparées sur le territoire national actuellement. On a certaines industries qui disparaissent et d'autres qui arrivent. Je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est comment prévoir ces changements et accompagner les populations, les citoyens dans ce changement. Il nous faut aujourd'hui un ministre de la zone euro pour que le budget soit mieux géré. On a une autre problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas décider, par exemple, des budgets de 2021 à 2027 avant l'élection de 2019. Il faut aussi laisser plus de souplesse et modifier cette partie-là en disant à la Commission et au Parlement, le budget 2021-2027 doit être voté par la nouvelle majorité de 2019. Ça permet de prendre en considération les changements et il faut plus de souplesse. Ce ministre des Affaires économiques européen aura cette capacité de dire, voilà, il nous faut de la souplesse, par exemple, sur la PAC quand il y a des problématiques climatiques ou des changements de grande ampleur. Et c'est le cas aussi sur les problématiques de développement industriel ou économique, sur la création, l'accompagnement. On a de plus en plus de sociétés européennes qui fusionnent pour devenir des numéro un mondiaux. À partir de là, il faut aussi pouvoir les accompagner.
Je vais juste... Le ministre du budget européen, ça n'a pas de sens. Le budget européen n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de budget en dehors d'un cadre national. Le budget interpelle le consentement à l'impôt. En fait, l'euro, si vous voulez, pourrait être maintenu en l'état s'il y avait une possibilité de mutualiser les excédents allemands, notamment, mais pas seulement, sur les pays déficitaires. Or, aujourd'hui, les Allemands ne sont pas tellement d'accord pour mutualiser leurs excédents dans le cadre d'un budget fédéral. Et donc, c'est là où on comprend, si vous voulez, que derrière les discours lénifiants sur la solidarité européenne, les gens sont très pro-européens quand il s'agit de capter la richesse sur le dos des partenaires, et dès lors qu'il s'agit de redistribuer ces richesses-là au profit de pays qui sont, je dirais, plus en difficulté, comme les pays d'Europe du Sud, notamment, il n'y a plus personne. Donc, le budget européen ne verra jamais le jour parce que le citoyen allemand n'est pas d'accord pour partager son excédent commercial avec un citoyen letton ou avec un citoyen italien, avec un citoyen français.
C'est en train d'évoluer aujourd'hui même au niveau de l'Allemagne. Il faut laisser les choses se faire au fur et à mesure. Il y a eu des positions qui ont été prises il y a 1 ou 2 ans. Au fur et à mesure des choses, les besoins que nous avons font changer les dogmes et les logiciels. À partir de là, l'Allemagne a fait des pas, par exemple sur l'Agence européenne du travail. On est en train de discuter sur l'accompagnement des salaires. L'agence sur le chômage, la protection des travailleurs, c'est une chose que l'Allemagne n'a jamais voulu.
Tout ça ne
sert à rien. Parler d'excédent de l'Allemagne, si demain la France était excédentaire et que
vous accepteriez d'utiliser
si la France était excédentaire et qu'on redistribuait sur tout le reste de l'Europe, vous viendrez nous dire, je suis pas d'accord parce qu'on est en train de nous piquer notre argent.
Mais tout à fait.
Donc en fait, vous demandez de faire quelque chose à l'Allemagne, vous
accepteriez
pas de faire non plus.
Et la solidarité, pas à l'Allemagne d'être nationaliste.
La solidarité. Elle n'est pas nationaliste. La solidarité européenne, c'est pas obligatoirement la redistribution financière.
Ben,
les budgets sont bien européens.
Si vous voulez que
l'euro
marche,
permet de faire
il faut de la redistribution. S'il n'y a pas de redistribution, l'euro mourra.
Et je vous propose de conclure tous les deux pour ce soir, puisque l'émission est terminée. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette discussion. On proposera bien sûr d'autres débats sur ces élections européennes. Merci à vous, Ludovic Mendès, dont je rappelle député La République En Marche de Moselle. Merci Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement National. Discussion
merci.
Que vous pouvez réécouter sur notre site. site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre, téléchargez l'émission, vous pouvez nous écrire, vous pouvez retrouver dans quelques heures des extraits vidéo de cette discussion. J'ai quelques secondes, j'en profite pour vous annoncer que l'Esprit Public sera enregistré pour la première fois au Théâtre de l'Odéon ce samedi à 14h, ce sera en public. Deux sujets, les révoltés du Brexit et le roman national version Emmanuel Macron. Vous pouvez vous inscrire sur franceculture.fr. Il y aura une séance aussi de questions-réponses entre les participants de l'Esprit Public et la salle. Je n'ai pas remercié l'équipe. Arnaud Laporte.
Je ne crois pas.
Votre regard me dit non. Antoine Tricot, Guillaume Laguigné, Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Le Duo. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, à la prise de son, Anthony Thomasson. Voilà, c'est à vous. Arnaud.
C'est tout, c'est comme ça que vous me lancez maintenant.
Oui, bah
c'est
voilà.
C'est scandaleux.
Bah non, mais on se connaît tellement.
Bon, Émilie Aubry sera dans la grande salle du Théâtre de l'Odéon Paris 6e. Ce n'est pas sans savoir qu'il y a plusieurs salles pour l'Odéon Théâtre de l'Europe.
J'aime toujours cet esprit de précision.
On va parler d'art plastique et demain dans du Grain à Moudre, une question.
Notre modèle social est-il périmé ?